5. Tian était assis à l'une des extrémités de la longue table, Zalia à l'autre. Les jumeaux n'avaient pas été relégués dans le ghetto de la table des petits, comme c'était toujours le cas pour Susanna et ses cousins lors des réunions de famille, ce qu'elle détestait au plus haut point, mais étaient assis à la file sur l'un des côtés, les deux plus jeunes flanqués des plus grands. Hedon aidait Lia, Hedda aidait Liman. Susanna et Eddie étaient placés côte à côte, en face des enfants, avec l'un des géants à la gauche de Susanna et l'autre à la droite d'Eddie. Le bébé était confortablement installé sur les genoux de sa mère, puis quand il commença à s'ennuyer, passa sur ceux de son père. Le vieillard était assis à côté de Zalia, qui le servait, lui coupait sa viande tout petit, et lui essuyait effectivement le menton quand de la sauce coulait. Tian lançait des regards noirs dans leur direction, d'un air boudeur dont Eddie pensa qu'il n'était pas à son honneur. Mais il ne dit pas un mot, sauf une fois, pour demander à son grand-père s'il voulait plus de pain.
« Si on veut mon bras, mange toujours !» répondit le vieil homme, et il attrapa le panier de pain pour le prouver. Il le fit avec habileté pour un homme d'un âge canonique. Puis il gâcha cette première impression en renversant le pot de confiture.
« Saloperie !»
s'écria-t-il. Les quatre enfants se regardèrent avec des yeux ronds, puis se couvrirent la bouche de leurs mains et pouffèrent. Tia renversa la tête en arrière et lança un de ses braiements vers le ciel. Du coup, elle percuta Eddie dans les côtes et faillit bien le mettre par terre. « J'aimerais que vous surveilliez votre langage devant les enfants, » dit Zalia en redressant le pot.
« J'ai un plol dans pal dans !»
fit le grand-père. Eddie se demanda s'il aurait réussi à faire preuve d'une telle humilité si c'était son petit-fils qui l'avait réprimandé de la sorte.
« Je vais vous donner un peu de ça, grand-père, » dit Susanna en prenant le pot des mains de Zalia.
Le vieillard se mit à la contempler d'un regard humide où pointait presque de l'adoration.
« Pas vu une vraie femme brune depuis, oh, au moins 40 »,
lui dit le grand-père.
« Avant, elle venait sur les pémichmatchés, mais maintenant. »
Dans la bouche de grand-père, péniche sonnait comme « pémiche ».
J'espère que ça ne vous fait pas trop grand choc de découvrir qu'on est toujours dans le coin, fit Susanna en lui décochant un petit sourire auquel le vieillard répondit par un large rictus édenté. La viande était dure mais savoureuse, le maïs presque aussi bon que celui du repas qu'Andy leur avait préparé dans les bois. Le saladier de patates, bien qu'ayant la taille d'un lavabo, dut être rempli deux fois, et la saucière à trois reprises. Mais pour Eddie, la véritable révélation vint du riz. Zalia en servit de trois sortes différentes, et de l'avis d'Eddie, chacune fut meilleure que la précédente. Et Jafors, cependant, le mangeait distraitement, comme les gens qui boivent de l'eau au restaurant. Le repas se termina par une tourte aux pommes, puis on envoya les enfants jouer. Le grand-père mit la touche finale au festin par un rot tonitruant.
« Non, mais si !»
dit-il à Zalia en se touchant la gorge trois fois.
« Toujours est aussi bon, Zi. »«
Ça me fait plaisir de vous voir manger comme ça, papa, » dit-elle.
Tian grogna, puis dit « Papa, nos deux invités voudraient vous parler des loups. »«
Rien qu'est dit, si cela vous sied, » s'empressa de le corriger Susanna, sans une hésitation. « Moi, je vais vous aider à débarrasser la table et à nettoyer les plats. »«
Ne vous donnez pas cette peine, » dit Zalia. Eddie crut voir que Zalia lui envoya un message à travers le regard. « Restez, il vous aime bien. » Mais, ou bien Susanna ne le remarqua pas, ou bien elle décida de ne pas en tenir compte. Pas du tout, dit-elle en se glissant dans son fauteuil avec l'aisance conférée par l'habitude.
Parlez donc à mon homme, d'accord, sighed Jaffotz.
Tout ça, c'est de l'histoire ancienne et au fait.
Le vieil homme n'avait pourtant pas l'air de devoir se faire prier.
Pas sûr que je puisse. Ma tête, elle tient pour les histoires comme vent.
Mais j'aimerais entendre ce que vous vous rappelez,
jusqu'au moindre détail, confirma Heidi. Tia se mit à braire comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle eût jamais entendue. Zal en fit autant, puis, d'une main grosse comme une planche à découper, il ramassa la dernière part de purée dans le saladier. Tian lui asséna une petite tape énergique.
« On fait pas ça, espèce de gros balourd. Combien de fois je te l'ai dit ?»«
D'accord, » fit le grand-père.
« Je vais la compter un petit si tu veux entendre, fiston. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre maintenant ?» À poche jamaillée. Aide-moi à ritourner sous le poche, parce que c'est bien plus facile à descendre qu'à monter, c'te mal chelou.
Et si tu m'appelles la pipe, petite fille, c'est bien. Pas qu'une pipe, ça aide l'homme à réfléchir, ça oui.
Bien sûr, j'y vais, dit Zalia, ignorant un nouveau regard amer de son mari.
Tout de suite.
6.
C'était il y a bien, bien long, faut étudier ça, commença le grand-père,
une fois que Zalia l'eut installé dans son fauteuil à bascule avec un coussin dans le bas du dos et que sa pipe fut allumée.
Je suis pas sûr que les loups sont venus deux ou trois fois de pipe, parce que j'avais beau étage 19 plein temps à l'époque. J'ai perdu le compte entre les deux.
Au nord-ouest, la ligne rouge du couchant avait pris une nuance vieux rose ravissante. Tian avait rejoint les bêtes dans la grange, aidé de Hedon et de Heda. Les plus jeunes étaient à la cuisine. Tia et Zalman, les géants, se tenaient au bout de la cour, le regard perdu à l'est, sans un mot ni un geste. Ils auraient pu être des monolithes sur l'île de Pâques photographiés par National Geographic. En les contemplant, Eddie sentit une légère chair de poule le gagner. Il s'estimait pourtant heureux. Le grand-père paraissait relativement lucide, et malgré son lourd accent, presque caricatural, Eddie avait suivi sans mal les paroles du vieillard, du moins jusque-là.
« Je ne pense pas que le nombre d'années ait tellement d'importance, monsieur, » fit Eddie.
Le grand-père haussa les sourcils. Il y a là de son rire rouillé.
Voilà du monsieur, long, long, que j'avais point entendu ça, te devenir les comtés du Nord.
Je crois bien qu'on pourrait dire ça, ouais. Le grand-père plongea dans un silence profond, absorbé par la fin du coucher du soleil, puis il regarda de nouveau Eddie d'un air surpris.
On a déjà mangé ? Les rations, les buvances.
Eddie se sentit soudain très abattu.
Oui, monsieur, autour de la table, de l'autre côté de la maison.
Si je demande parce que je dois couler un bronze, je le fais direct après le souper, je suis point pressé, alors je demande.
Non, on a dîné.
Oh. Comment tu dis que t'appelles?
Eddie Dean.
Oh.
Le vieux tira sur sa pipe. Des ronds de fumée jumeaux s'échappèrent de ses narines.
Et la malone, elle est à toi?
Eddie était sur le point de demander des éclaircissements quand le grand-père précisa.
La femme.
Susanna. Oui, c'est ma femme.
Oh. Monsieur, grand-père,
les loups, mais Eddie n'espérait plus pouvoir tirer le moindre renseignement du vieux bonhomme, mais Suze, peut-être.
S'il me l'appelle bien quatre qu'ils étaient,
finit par dire le grand-père. Pas cinq ?
Non, pas presque une pêche.
Sa voix s'était faite sèche, factuelle. L'accent parut un peu moins prononcé.
On était jeune et fou, lien, fait de moulin, faux, un tuté saut. Juste assez l'alboul pour décider de faire quelque chose, quand les autres étaient oui ou pète. Il y avait moi, Pocrisidel, mon meilleur ami que c'était, et puis aussi Herman Doulin, sa femme, Molly Larousse. Vrai diablesque c'était pour lancer le plat.
Le plat.
Si fait! Les selles de Lisa font ça. Tu dirais de te montrer, elles ont des plats tout affûtés tout autour, sauf là où est l'atlape teintuite. Mauvaise hein, qu'elles sont avec ça, si fait. À côté, un type avec un bord leur a l'air bien niais, faut que tu vois ça.
Eddie nota intérieurement qu'il fallait qu'il en touche deux mots à Roland. Il ne savait pas si cette histoire de lancer de plats avait le moindre intérêt pour eux, mais ce qu'il savait, c'est qu'ils étaient vraiment à court d'armes.
« La Molly, qu'as-tu le loup ?»«
C'était pas vous ?» Cette façon qu'avaient vérité et légende de se mélanger jusqu'à en devenir inextricable laissait Eddie perplexe.
« Non pas, même si... »
Les yeux du grand-père se mirent à briller. Je m'en peux dire que c'était moins une faux ou deux, peut-être bien pour faire écalter les cuisses à une demoiselle, tatute.
Je crois, oui. Et la Molly. Molly Larousse que la bête avec son plat, la vérité. Mais là, je mets la chalut avant les bœufs. On a vu le nuage de poussière, et puis, peut-être à 6 août avant la ville, il s'est séparé 3 mois.
Qu'est-ce que c'est? Je connais pas cette expression. Le grand-père leva 3 droits bandés pour indiquer que les loups étaient partis dans 3 directions différentes.
Le plus glougloup d'appeler la taille du nuage intuit, les rentrant en ville vers chez Touk, et c'était pas bête parce qu'il y en avait, ils avaient voulu cacher le bébé dans la réserve derrière. Touk, une pièce secrète loin des guerres où il met l'argent et les bijoux et quelques fusils et aussi d'autres marchandises. S'appelle pas Touk Lien. C'est pour du toc qu'il a.
Et il lâcha une nouvelle salve de gloussements rouillés.
C'était une bonne planque, même les employés de cette vieille bique ne savaient pas qu'elle existait. Pour le temps de moment venu, les loups, ils sont allés tout droit, ils ont pris les babés, ils ont déglingué tous ceux qui ont essayé de les en empêcher ou même qu'on suppliait. Et puis, ils ont tout rossé avec leurs lumitiques, ils sont paletés en brûlant tout. Tout brûlé, pour sûr, et c'est heureux que toute la vie y a pas pensé, je ne sais. Parce que les flammes que ça fait, les lumétiques, c'est pas comme les autres feux, ça non, les autres, il suffit d'y mettre de l'eau, mais va-t'en, j'ai jeté de l'eau sur ceux-là, ça les fait monter, encore plus haute et plus chaude. Oh, salaud!
Il cracha par-dessus la rambarde pour donner du poids à son propos, puis jeta un regard perspicace en direction d'Eddie.
Ce que je veux dire, c'est que même si mon petit-fils arrive à en convaincre de se battre, ou toi et ta blune, et ben Touk, on le fait pas paleter pour sûr. Les Touk ont cette boutique depuis la nuit des temps, ils ont pas envie de la voir brûler encore une fois ça a suffi pour ces pauvres blanches. Tu me suis?
Oui.
Les 2 autres nages de poussière, le plus gros est allé au sud vers les ranches. Le plus petit, il a descendu la loutre de l'Est vers les petites propriétés, c'est là qu'on était, et c'est là qu'on les a cueillis.
Le visage du vieil homme rayonnait de l'éclat de ses souvenirs. Eddie ne put se représenter le jeune homme qu'il avait été. Le grand-père était trop âgé pour ça. Mais il vit dans ses yeux chassieux un mélange d'excitation et de détermination, mais aussi de peur et d'inquiétude. Toutes ces émotions qui avaient dû l'envahir ce jour-là. Qui avait dû les envahir tous. Eddie tendait vers tout ça comme un homme affamé, en quête de nourriture. Et le vieux dut percevoir ce sentiment sur son visage, car il parut retrouver du répondant et de la vigueur. Ce ne devait certes pas être le genre de réaction qu'il avait obtenue de son petit-fils. Tiens, ne manquait pas de courage, grand merci, mais ça reste un pecno. Alors qu'avec celui-là, avec cet Eddy de New York. Il ne ferait peut-être pas de vieux os et il finirait sans doute le nez dans la poussière, mais au moins, c'était pas un pecno, par Risa.
Continuez, demanda Eddy.
C'est fait, pas sûr. Ceux qui venaient vers nous, il y en a qui ont bifurqué vers la loutre du fleuve vers les petits risiers qui sont là-bas. On voyait la poussière, et puis quelques autres ont pris Peabody Road, je m'appelle, pour qui Sliddle s'est tourné vers moi avec son sourire triste, l'a tendu la main. Pas celle que tenait le bas, l'autre. Et il a dit.
7. Sous ce ciel d'automne brûlant, dans le champ des derniers criquets de la saison qui s'élèvent des hautes herbes blanches tout autour d'eux, voilà ce que dit Pocky Sliddle. J'ai été heureux de te connaître, Jamie Jeffords, la vérité. Et il a ce sourire sur les lèvres, un sourire comme Jamie ne lui en a jamais vu. Mais comme il n'a que 19 ans et qu'il vit loin d'ici sur ce que d'aucuns appellent la borde et d'autres le croissant, il y a plein de choses qu'il ne connaît pas, ou qu'il ne connaîtra jamais, et en juger par la situation présente. C'est un sourire triste, mais il n'y voit pas une once de lâcheté. Jamie se dit qu'il doit avoir le même sourire. Les voilà sous les soleils de leur père, et bientôt, les ténèbres les engloutiront. Leur dernière heure est venue. Néanmoins, quand il saisit la main de Pocky, c'est d'une poigne ferme. « Tu as encore beaucoup à connaître de moi, Pocky, lui dit-il. J'espère que tu dis vrai. » Le nuage de poussière fonce vers eux. Dans une minute, peut-être moins, ils pourront voir les cavaliers, et surtout, les cavaliers pourront les voir. Et Amon Doolin dit « Vous savez, je pense qu'on devrait se mettre dans le fossé. » Et il indique le côté droit de la route et se faire tout petit. Et puis, dès qu'ils passeront, on pourra leur sauter dessus. Molly Doolin est vêtue d'un pantalon de soie noire ajusté et d'un chemisier de soie blanche ouvert sur le cou et qui révèle une petite amulette de la moisson en argent. Oritza, le poing dressé. Dans sa main droite, Molly tient un plat affûté en titane bleu acier, décoré d'un fin liseré de feuilles de riz. Jetée sur l'épaule, elle porte une poche en roseau doublée de soie. Elle contient 5 autres plats, 2 à elle et 3 appartenant à sa mère. Sa chevelure étincelle tellement dans cette lumière éclatante qu'on croirait sa tête en feu. Et c'est ce qui arrivera bien assez tôt. Bref. « Fais donc ce que tu veux, Eamon Doolin, dit-elle. Mais moi, je vais rester planté là pour qu'ils puissent me voir, et je vais leur crier au visage le nom de ma sœur jumelle pour qu'ils l'entendent bien. Ils auront beau me piétiner, j'en tuerai un, ou bien je lui trancherai les jambes quand son foutu cheval me passera dessus, tu peux me croire. » Elle n'a rien le temps d'ajouter. Les loups surgissent de la petite butte qui marque l'entrée du petit terrain d'Ara. Et les 4 falcons de la Cala les voient enfin arriver, et plus personne ne parle de se cacher. Jamie s'attendait presque à ce qu'Eamon Doolin, avec ses manières gracieuses et son front déjà dégarni à 23 ans, lâche son bât et détale dans les hautes herbes les bras en l'air pour indiquer qu'il se rend. Au lieu de quoi, il se place aux côtés de sa femme et il arme un bolt. On entend un long vrombissement au moment où il enroule la corde serrée. Ils se tiennent en travers de la route, les bottes vissées dans le sol farineux. Ils bloquent le passage de leur corps. C'est la chose à faire. Ils vont mourir ici, mais ce n'est pas grave. Mieux vaut mourir que de rester là, les regarder emmener d'autres enfants. Chacun d'entre eux a perdu un jumeau, et Pocky, qui est de beaucoup leur aîné à tous, a vu les loups emmener l'un après l'autre son frère et son jeune fils. C'est la chose à faire. Ils savent pertinemment que les loups feront payer aux autres ce qu'ils font maintenant, mais ça n'a pas d'importance, c'est la chose à faire. « Allez !» crie Jamie en armant son propre bât. Une fois, deux fois, et clic. « Allez, bande de buses ! Venez chercher votre clé ! De la part de la Cala,
de Calla Bryn Sturgis !»
Et soudain, dans la canicule, les loups semblent ne plus avancer, mais seulement miroiter sur place. Puis le son des sabots jusqu'ici faible et assourdi se fait aigu, et on dirait que les loups bondissent en avant dans l'air fourmillant. Ils portent des pantalons aussi gris que la robe de leurs chevaux. Leurs capes vert sombre flottent derrière eux. Des capuches vertes surmontent les masques. Ce sont forcément des masques qui dessinent sur le visage des quatre cavaliers la tête d'un loup affamé aux babines retroussées.
« 4 contre 4 !» hurle Jamie. « 4 contre 4, on est quitte ! Défendez vos positions, bande de mauviettes ! On bougera pas !»
Les quatre loups bondissent vers eux sur leurs chevaux gris. Les hommes lèvent leurs bas. Molly, qu'on appelle parfois Molly la Rousse pour son tempérament farouche autant que pour sa chevelure, brandit son plat au-dessus de son épaule gauche. À présent, elle n'a pas l'air furieuse, mais calme et concentrée. Les deux loups à l'extérieur sont armés de lumitriques. Ils les lèvent. Les deux du milieu reculent leurs poings gantés de verre pour lancer quelque chose. Des vifs d'argent, se dit froidement Jamie. Voilà ce qu'ils ont.
« Pas encore, les gars !» dit Poké. « Pas encore ! Pas encore ! Maintenant !»
Dans un bruit de corde pincée, il fait voler son bolt juste au-dessus de la tête du deuxième loup sur la droite. Celui d'Eamon frappe au cou celui de gauche. La bête lâche un cri, une sorte de hennissement hystérique, et chancelle au moment où les loups franchissent les 30 derniers mètres. Il s'écroule sur le cheval voisin alors qu'un des cavaliers lance l'objet qu'il tenait. C'est effectivement un vif d'argent, mais il rate sa cible de beaucoup, et son système de téléguidage ne parvient pas à rectifier sa trajectoire. Le bolt de Jamie percute le troisième cavalier à la poitrine. Jamie pousse un cri de triomphe qui meurt instantanément dans sa gorge quand il voit le bolt rebondir sur le torse de la chose, comme il rebondirait sur celui de Andy ou comme une pierre dans le champ appelée fils de pute. Tu portes une armure, espèce de saloperie. Tu portes une armure sous cette satanée. L'autre vif d'argent va droit au but et frappe Eamon Doolin en plein visage. Sa tête explose dans une gerbe de sang, d'os et de matière gris blême. Le vif d'argent parcourt encore une trentaine de grops, puis il tourne sur lui-même et revient. Jamie se baisse et l'entend cingler au-dessus de sa tête avec ce bourdonnement grave et dur. Molly n'a pas bougé d'un pouce, pas même lorsqu'elle a reçu sur elle le sang et la cervelle de son mari. Mais elle se met à hurler.
« Ça, c'est pour Minnie ! Espèce d'enfant de catin !»
Et elle lance son plat. C'est maintenant une très courte distance qui la sépare de sa cible, si on peut même parler de distance. Pourtant, elle lance fort et le plat s'envole sitôt qu'il quitte sa main. « Trop fort, ma chère, » se dit Jamie en se baissant pour éviter le coup à la volée d'une lumitrique. Une lumitrique qui produit ce même bourdonnement dur et atroce. « Trop fort, mon salaud !» Mais le loup que Molly a visé semble se précipiter sur le plat en vol. L'objet le cueille juste à la jonction de la capuche verte et du masque. On entend un son étouffé et étrange.
« Tchoum !»
Et la chose bascule en arrière, ses mains gantées de verre balayant l'air. Poké et Jamie poussent un hurrah triomphal, mais Molly, quant à elle, attrape froidement un autre plat dans sa poche. Ils sont tous là, bien rangés, leurs segments plus épais offerts à sa main. Elle est en train de l'extraire lorsqu'une lumitrique lui tranche le bras net. Elle vacille, retroussant les lèvres d'un rictus de douleur, et elle tombe à genoux tandis que son chemisier prend feu. Éberlué, Jamie la voit essayer de ramasser dans sa main arrachée le plat qui a roulé dans la poussière de la route. Les trois loups restants les ont dépassés. Celui touché par Molly est étendu à terre, secoué d'horribles soubresauts, ses mains gantées se levant et retombant comme s'il essayait de dire « Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces foutus pecnos ?» Les trois autres font faire demi-tour à leur monture avec la grâce et l'ensemble d'un bataillon de cavalerie et reviennent droit sur eux. Molly arrache le plat de ses propres doigts morts, puis bascule en arrière engloutie par les flammes.
« Tiens bon, Bucky !»
hurle Jamie, hystérique, tandis que la mort fonce sur eux sous ce ciel d'acier en fusion.
« Tiens bon, bon Dieu !»
Et l'état de grâce persiste dans l'odeur de chair brûlée des Doolin. C'est ainsi qu'ils auraient dû agir depuis longtemps, si faits, tous autant qu'ils sont, parce qu'on peut venir à bout des loups, même s'ils ne survivront sans doute pas pour apporter témoignage, et qu'ils emmèneront avec eux leur compadre mort afin que personne ne l'apprenne. » Nouveau son de corde pincée, tandis que Pocky lance un bolt, et au même instant, un vif d'argent le frappe en plein cœur et le fait exploser dans ses vêtements, les manches de sa chemise, ses manchettes et la braguette arrachée de son pantalon vomissent du sang et de la chair broyée. Jamie est de nouveau arrosé, cette fois par ce ragoût qui fut autrefois son ami. Il arme son propre bas et le projectile va labourer le flanc d'un cheval gris. Il sait qu'il est inutile de se baisser, mais il se baisse quand même, et quelque chose file au-dessus de sa tête en vrombissant. Un des chevaux le percute en passant, le faisant rouler dans le fossé où Eamon voulait les voir se cacher. Son bas s'envole, il reste allongé, là, les yeux ouverts, sans bouger. Il les entend faire un nouveau demi-tour, et il sait qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de jouer le mort, en espérant qu'ils ne s'en rendront pas compte. Ils s'en rendront compte, bien sûr que oui, mais c'est tout ce qui lui reste. Alors il le fait. Il essaie de mettre dans ses yeux ouverts le voile vitreux de la mort. Encore quelques secondes, et il sait qu'il n'aura plus besoin de faire semblant. Il sent la poussière, il entend les criquets dans l'herbe, et il se raccroche à ces choses, sachant que ce sont les dernières qu'il sentira et qu'il entendra, et que la dernière qu'il verra, ce seront ces loups fondant sur lui avec leur éternel et abominable rictus. Ils reviennent au triple galop. L'un d'eux se retourne sur sa selle et envoie un vif d'argent au passage. Mais au moment où il lance de sa main grantée, son cheval enjambe le corps du loup abattu, qui tressaute toujours en travers de la route, mais les mains à peine soulevées à présent. Le vif d'argent passe au-dessus de Jamie, juste un peu trop haut. Il le sent presque hésiter, chercher sa proie, puis il s'élance en flèche à travers champs. Les loups galopent vers l'est, soulevant la poussière. Le vif d'argent revient comme un boomerang et repasse au-dessus de Jamie, cette fois plus haut et plus lentement. À une quarantaine de mètres à l'est, les chevaux gris font une courbe et disparaissent hors de sa vue. La dernière vision qu'il a d'eux, c'est celle de trois capes vertes flottant presque à la perpendiculaire de leur corps. Dans le fossé, Jamie se redresse sur ses jambes qui menacent de céder sous lui. Le vif d'argent effectue un dernier passage, cette fois droit sur lui, mais très lentement, comme si la puissance qui l'animait s'était épuisée. Jamie rampe tant bien que mal jusqu'à la route, tombe à genoux près des restes calcinés du cadavre de Pocky et s'empare de son bas. Cette fois-ci, il le tient par l'extrémité, comme un maillet au poing. Le vif d'argent avance sur lui. Jamie lève le bas à hauteur d'épaule et quand cette chose lui arrive dessus, il la frappe comme avec une batte, l'envoyant voler dans l'air comme un insecte géant. Elle tombe dans la poussière à côté d'une des bottillonnes déchiquetées de Pocky et reste là, à vibrer avec une malveillance, essayant de redécoller. « Prends ça, saloperie !» crie Jamie en envoyant de la terre à coups de pied sur le vif d'argent. Il sanglote. « Prends ça, saloperie ! Prends ça ! Tiens !» La chose finit par rendre l'âme enterrée sous un tas de poussière blanche qui tressaute et vibre une dernière fois avant de s'immobiliser. Sans se lever, il n'a pas encore la force de se remettre sur pied. Pas encore. Il a déjà du mal à croire qu'il est encore en vie. Jamie Jaffords s'avance à genoux jusqu'au corps du monstre que Molly a tué, car il est bel et bien mort à présent, ou du moins, il ne bouge plus. Il veut lui retirer son masque et le regarder en face. Il commence par le bourrer de coups de pied comme un enfant qui pique une colère. Le corps du loup se balance de droite à gauche, puis s'immobilise à nouveau. Il exhale un relent âcre, une odeur de pourriture monte du masque qui semble en train de fondre. « Mort !» pense ce garçon qui deviendra le grand-père, le doyen de la Cala. « Mort, si fait, aucun doute. Alors, hardi, espèce de lâche, hardi, démasque-le !» C'est ce qu'il fait. Sous ce soleil brûlant d'automne, il se saisit du masque pourrissant qui lui fait l'effet dans la main d'une sorte de treillis métallique. Et il tire dessus. Et il voit. 8. Pendant une seconde, Eddie ne se rendit même pas compte que le vieux gars s'était tu. Il était toujours perdu dans son histoire, envoûté. Il se figurait la scène si clairement que ça aurait pu être lui, là-bas, sur la route de l'Est, agenouillé dans la poussière, le bas sur l'épaule comme une batte de baseball, prêt à envoyer valser le vif d'argent dans les airs. Puis, Susanna passa en fauteuil devant la véranda, en direction de la grange, un récipient de grains sur les genoux. Elle leur lança un regard curieux, au passage. Eddie sortit de sa torpeur. Il n'était pas venu ici pour se faire divertir. Et il se disait que le fait qu'il puisse être diverti par une telle histoire en disait long sur lui. « Et puis ?» demanda Eddie au vieil homme, lorsque Susanna fut entrée dans la grange. « Qu'avez-vous vu ?»«
Eh ?»
Le grand-père lui adressa un regard tellement vide qu'Eddie sentit le désespoir le gagner. « Qu'avez-vous vu ?»«
En retirant le masque ?»
Pendant un moment, ce regard vide persista. On voit de la lumière, mais il n'y a personne à la maison. Puis, par la seule force de la volonté, ce qu'il parut à Eddie, le vieil homme revint à lui. Il jeta un œil à la maison derrière lui. Il contempla la gueule noire de la grange et la coulée de lumière au phosphore dans ses profondeurs. Puis, il balaya la cour du regard. « Il a peur, » pensa Eddie. « Il meurt de peur. » Eddie essaya de se convaincre qu'il ne s'agissait là que de la paranoïa d'un vieil homme, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir un frisson le parcourir. « Penche-toi par ici, » marmonna le grand-père, et quand Eddie s'exécuta. « Le seul gars qui l'ait raconté ça, c'est mon gars, Luc. » De Tian, d'un
des années et des années après ça, c'était. Il m'a dit, jamais le dit à personne. J'ai dit, mais, ok, si ça peut aider pour la prochaine fois.
Les lèvres du grand-père bougeaient à peine, mais son lourd accent avait presque complètement disparu. Et désormais, Eddie le comprenait parfaitement.
Et alors il m'a dit, pas. Si tu crois vraiment que ça va, ça peut aider, pourquoi tu l'as pas dit avant? Et j'ai rien pu lui répondre, parce que c'est l'intuition et rien d'autre qui m'a scellé la goule. En plus, quel bien ça pouvait faire? Qu'est-ce que ça change?
« Je ne sais pas, » répondit Eddie.
Leur visage était tout proche. Eddie pouvait sentir le bœuf et la sauce dans la laine de Jamie.
« Comment je pourrais... Vous ne l'avez pas dit ce que vous avez vu. Le roi rouge trouve toujours ses hommes de main. Il m'a dit, mon gars, ça se l'est mieux si personne savait que t'étais là-bas. Ça se l'est encore mieux que personne entende ce que t'as vu là-bas, de peur que ça le revienne aux oreilles, si fait, même un tonne foudre. Et c'est une chose bien triste que j'ai vue, jeune homme. »
Bien que dévoré par l'impatience, Eddie jugea bon de laisser le vieil homme dérouler son récit comme il l'entendait. « Qu'est-ce que c'était, grand-père ? »
Je l'ai bien vu que Luc ne me croyait pas complètement. Il croyait que son papa la contait peut-être bien des histoires, qu'il la contait des sonnettes, qu'il était un tuel de loup pour se donner des airs. Sauf que même la moitié d'un idiot voulait bien que s'il voulait inventer des sonnettes, j'aurais dit que c'était moi qui avais tué le loup, et pas la femme d'Hermon Doulin.
Ça se tenait. Puis Eddie se rappela que le grand-père avait au moins suggéré qu'il avait bel et bien prétendu être l'auteur de cet exploit, et plus qu'il était une fois, comme disait parfois Rallant. Il ne put s'empêcher de sourire.
« Lucky, il avait peur que quelqu'un d'autre entende mon histoire et la croie. Que ça finirait par revenir aux oreilles des loups,
que je finirais mort pour rien, sauf inventer des histoires. Sauf que c'était pas des histoires. De ses yeux chassieux, il suppliait Heidi dans la pénombre croissante.
« Toi, tu me crois, pas vrai ?»
Heidi acquiesça. « Je sais que vous dites vrai, grand-père, mais qui ?» Heidi marqua une pause. « Qui aurait pu te balancer ? C'est la question qui lui vint à l'esprit. Mais le grand-père ne comprendrait peut-être pas. « Mais qui l'aurait raconté ? Qui soupçonniez-vous ? » Le grand-père regarda autour de lui la cour assombrie, sembla sur le point de parler, puis se ravisa. « Dites-le-moi, insista Heidi. Dites-moi ce que vous... » Une grosse main sèche, tremblant de vieillesse, mais toujours étonnamment forte, lui attrapa la nuque et la tira vers le vieux. Des moustaches drues vinrent râper le pavillon de l'oreille d'Eddie, le faisant frissonner des pieds à la tête et lui donnant la chair de poule. Le grand-père lui murmura 19 mots, tandis que les dernières lueurs du jour mouraient et que la nuit tombait sur la cale. Les yeux d'Eddie Dean s'arrondirent comme des soucoupes. La première pensée qui lui vint, c'est qu'il comprenait. Pour les chevaux... tous ces chevaux gris. La seconde fut... Bien sûr, c'est parfaitement logique. On aurait dû le savoir. Le 19e mot prononcé, le chuchotement du grand-père cessa. La main qui retenait la nuque d'Eddie relâcha son emprise et retomba sur les genoux du vieillard. Heidi se tourna vers lui. « C'est la vérité ?»«
Si fait, pistolero, » répondit-il. « La vérité est toute nue. Je peux pas dire qu'ils sont tous comme ça, parce que des masques identiques peuvent cacher des visages très différents, mais...
Non, fit Heidi en repensant aux chevaux gris, sans parler de tous ses pantalons gris, de ses capes vertes. C'était d'une logique implacable. Que disait cette vieille chanson que sa mère lui chantait déjà ? Tu es dans l'armée maintenant, tu n'es pas derrière une charrue, tu ne seras jamais riche, espèce de salaud, t'es dans l'armée maintenant. « Il va falloir que je raconte cette histoire à Mondine, » le prévint Heidi. Le grand-père hocha lentement la tête.
« Si fait comme tu voudras. Je m'entends pas bien avec le gars, tu l'intuites. Lucky a bien essayé de mettre, puis là où tiens la pointe le souci est intuite. »
Heidi acquiesça comme s'il avait tout compris. Plus tard, Susanna lui traduisit la phrase. Je ne m'entends pas très bien avec le garçon, tu comprends. Lucky a bien essayé de mettre le puits là où Tion pointait la baguette de sourcier. Tu vois? Un bâton de sourcier, demanda Susanna dans le noir. Elle s'était rapprochée en silence et à présent elle agitait les mains comme si elle tenait un bréchet. Surpris, le vieux la regarda. Puis fit oui de la tête.
Soulcier, oui, là. Mais, faut-il, j'ai dit qu'il fallait pas, mais après les loups, quand ils ont pris sa sœur, tiens, Lucky faisait tout ce que le gosse disait. T'imagines, laisser un gamin qui a pas 17 ans décider de l'emplacement avec ou sans le soulcier. Mais Lucky l'a mis là, il y avait de l'eau, s'achetait la conne, où on l'a tous vu blier, on l'a senti avant que la paloi d'Algile s'effondre et enterre mon gamin vivant. On l'a déterré, mais il était déjà dans la clairière, la gorge et les poumons tout pleins d'Algile et de gadou.
Lentement, très lentement, le vieil homme sortit un mouchoir de sa poche et s'essuya les yeux avec.
avec le gars. On n'a pas eu une parole polie depuis ce jour-là. Il y a ce puits entre nous, vois-tu pas?
Mais il a raison, il faut combattre les loups, et si vous devez lui dire un message pour moi, dites-lui que son grand-père le salue bien bord, avec fierté, qu'il le salue beaucoup, beaucoup. Diable, le salaud! Il a le sabre de Jaffords dans son estomac. Si fait, on l'a tenu bon, et longtemps, et maintenant, c'est le sang qui parle.
Il hocha la tête encore plus lentement cette fois-ci.
Hardy! Et va le raconter à ton dîne, si fait. Dans les moindres détails. Et si le bruit court, si les loups soldent de tonnes foudre en avance pour un vieux couillon desséché comme moi.
Il découvrit les rares dents qui lui restaient en un sourire qu'Eddie trouva extraordinairement épouvantable.
« Je sais toujours s'élever d'un bas, » fit-il. « Et quelque chose me dit qu'on pourrait apprendre à ta blune à lancer le plat avec des jambes ou sans. »
Le regard du vieil homme se perdit dans le noir.
« Qui vienne ?» dit-il d'une voix douce.
« Une fois pour toutes, mon salaud. » Une bonne fois pour toutes.